France Culture. Avoir raison avec Paul Valéry. Géraldine Mosna-Savoie.
La durée des œuvres est celle de leur utilité. Il y a des siècles pendant lesquels Virgile ne sert à rien. Cette phrase est de Paul Valéry et manque de chance ou comble de la clairvoyance, elle semble 80 ans après sa mort parfaitement s'appliquer à lui et à son œuvre. Il suffit pourtant, comme le dit encore Paul Valéry, d'un seul exemple, d'un seul argument, d'un seul prétexte pour qu'une œuvre revive. Et aujourd'hui, l'entrée dans le domaine public de toutes ses œuvres, mais aussi la publication de ses 8 années de cours de poétique au Collège de France, suffisent à le demander. Comment Paul Valéry a-t-il révolutionné la littérature et ses théories? Son formalisme a-t-il d'ailleurs été une révolution? Et jusqu'où en sommes-nous imprégnés aujourd'hui? Toute cette semaine, on dépoussière le trop officiel Paul Valéry. Aujourd'hui, 3e épisode, votre esprit produit ou consomme de la littérature.
Vers 1890, j'avais 20 ans, eh bien, nous avions devant nous un territoire intellectuel particulièrement nu, en ce sens que ce n'est pas la richesse qui manquait au point de vue des œuvres, mais c'était la diversité, la divergence, le contraste de ces œuvres-là et des philosophies ou des théories esthétiques qui étaient en présence sur le terrain. Toutefois, il s'en dégageait une idée qui m'a beaucoup frappé, c'était de la vitalité même de l'esprit, considéré comme producteur de cette diversité. Notre civilisation consistait en somme, comme toute civilisation, dans un apport, une accumulation d'ouvrages, de traditions, de routines, de procédés, d'habitudes d'esprit, qui constituait ce qu'on pourrait appeler un capital. Et c'est ainsi que j'ai eu la première notion ce que j'ai appelé l'économie poétique, c'est-à-dire quelque chose qui, sur le terrain de l'intellect le plus pur et de la production des œuvres de l'esprit, fut l'analogue de l'économie politique ou de l'économie domestique.
Bonjour William Marx.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Vous êtes professeur au Collège de France, auteur de plusieurs essais sur la littérature. C'est à vous que l'on doit la publication et l'édition des 2 volumes des cours de poétique de Paul Valéry. C'est aux éditions Gallimard. Poétique qu'il a enseigné pendant 8 ans donc au Collège de France de 1937 à 1945, année de sa mort. Mais comme il le dit bien dans cette archive, et je suis sûre que vous saurez parfaitement la dater puisque nous avons déjà joué à ce jeu-là, dès les années 1890, il avait 20 ans, il avait remarqué cette chose, la diversité de production des œuvres, mais une rareté de théorie de la littérature.
Oui, alors l'extrait que nous avons écouté est un extrait effectivement du cours de poétique qu'il a donné au Collège de France en 1942, je crois, en mai-juin, et il explique que c'est une sorte d'autobiographie intellectuelle hein, qu'il propose là, et il montre que dans un moment de destruction de toutes les valeurs, il ne reste qu'une seule valeur, a priori. On n'a pas entendu la fin de l'extrait qui se retrouve dans l'édition que j'ai faite, donc les auditeurs pourront toujours s'y reporter. Il dit qu'au bout du compte, ce qui reste quand tout s'écroule autour de nous, c'est le sentiment esthétique. C'est le sentiment esthétique. C'est-à-dire, le goût que nous prenons aux choses. C'est-à-dire qu'une fois que les idées sont tombées, il reste notre rapport direct, sensible aux objets d'art, aux œuvres d'art en général, et à la littérature en particulier. Eh bien, toute la théorie littéraire, esthétique, poétique de Paul Valéry sort exactement de cette révélation, de cette épiphanie en fait. C'est-à-dire que quand tout s'écroule, il reste juste le sensible, c'est-à-dire ce qu'on va appeler, ce qu'on appellera un peu plus tard, et qu'il déjà commence à appeler la forme de l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'à une époque où toute la critique littéraire qui se développe, pas seulement en France, mais dans le reste de l'Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc., en Italie, est une critique essentiellement de type biographique, où l'on essaie d'expliquer l'œuvre à partir des conditions biographiques de l'existence de l'auteur. C'est ce que fait en France Gustave Lanson, c'est ce que faisait Hippolyte Taine en référant l'auteur au milieu d'où il vient. Valéry va proposer quelque chose de totalement différent, qui est une conception formelle de l'œuvre, à une approche formaliste, on pourrait dire, de l'œuvre. Il est l'un des grands créateurs de ce qu'on appelle maintenant la critique formaliste.
Mais alors ça semble contradictoire, William Marx, cette idée de formalisme qui semble s'attacher littéralement aux formes, c'est-à-dire à la forme d'une œuvre, et cette idée du sentiment esthétique où on a l'impression que ce serait plutôt ce que ça nous fait, ce qu'une œuvre d'art nous fait. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette économie poétique dont il parle dans cette archive, c'est-à-dire cette production qui susciterait quelque chose dans le lecteur? Est-ce que, et en quoi c'est complètement nouveau en fait?
Mais justement, vous venez de le dire. C'est-à-dire que le lecteur lui-même n'a pas accès à l'auteur, en principe. Il ne connaît pas l'auteur. Souvent, l'auteur est mort depuis très longtemps. Et parfois même, on ne sait même pas qui est l'auteur. À quoi a accès le lecteur? Il a accès à l'œuvre lui-même. C'est-à-dire, il a accès à une forme. Il a accès à du sensible. Il a accès à des mots. Il a accès à du langage. Et c'est la seule chose à quoi nous ayons affaire.
Ah, c'est donc ça qu'il faut entendre. Forme sensible.
Exactement. Forme sensible. Et donc, pour Valéry, il y a trois termes qui sont absolument distincts et qui ne sont jamais en rapport les uns avec les autres, quasiment. Enfin, si, il y a un terme médian qui est l'œuvre. Mais les deux termes extrêmes, c'est d'un côté l'auteur, qui est le producteur de l'œuvre, et donc c'est lui qui va faire l'œuvre, et le cours de poétique au Collège de France va être effectivement un cours sur, entre autres, mais sur la création de l'œuvre, comment on crée des œuvres de l'esprit, donc quel est le mécanisme de création de l'œuvre par l'auteur. Et puis il y a un troisième terme, qui est le lecteur. Et le lecteur, lui, n'a accès qu'à l'œuvre. Il n'y a jamais de relation directe entre l'auteur et l'œuvre. Et donc toute l'idée romantique, l'illusion romantique pour Valéry, que par l'œuvre nous pourrions avoir accès à l'auteur, pour ça c'est effectivement totalement une illusion et une tromperie. Et je crois que cette conception-là de Valéry, elle a beaucoup d'écho aujourd'hui, parce que nous sommes en... Aujourd'hui, nous revenons à une conception un peu romantique.
Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire.
À savoir que, on pourra en parler plus tard peut-être, mais enfin, parlons-en dès maintenant.
Oui, c'est-à-dire que les auteurs sont médiatisés, il y a de l'autofiction.
Mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que maintenant, on juge l'œuvre à partir de l'auteur. C'est-à-dire que, quelle que soit la valeur de l'œuvre, la valeur formelle, sensible de l'œuvre, eh bien, c'est l'identité de l'auteur, c'est son origine, son ethnie, sa race, sa couleur de peau, ce qu'il a fait, sa valeur morale. Hein, si c'est un très bon auteur, mais qu'à un moment ou à un autre, il a commis un crime, etc., à ce moment-là, on pourra éventuellement l'effacer et ne plus vouloir lire son œuvre. Tout cela, pour Valéry, on va le voir, c'est totalement aberrant, justement. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut lire Valéry, parce que je pense qu'il, même si les choses qui se passent aujourd'hui sont intéressantes, et il y a des choses à en tirer, mais néanmoins, Valéry apporte une sorte de contrepoids, on pourrait presque dire un contrepoison à certains égards, mais bon, ça dépend beaucoup des positions des uns et des autres, mais un antidote, en tout cas, il permet de rééquilibrer certains excès d'aujourd'hui.
Et puis, il y a cet attachement, vous l'avez dit, à la forme William Marx, c'est-à-dire non pas à la vie de l'auteur, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, à ce qu'il est, mais vraiment à ce qu'il produit. C'est ce qui a donné le formalisme. Est-ce que Paul Valéry est le premier à théoriser ça? Enfin, d'où lui vient en fait cette idée? À lui, on va s'attacher à l'esprit de Valéry, cette idée de penser la littérature en termes de production de l'esprit, en termes de formalisme.
Je crois qu'alors, cela lui vient personnellement, cela lui vient réellement d'abord de toutes ses lectures en psychologie expérimentale, qu'il lit les revues de psychologie, la revue Métaphysique et de Morale à l'époque, qui est une revue de psychologie. Il s'intéresse à ce que fait Théodule Ribaud. Donc, il s'intéresse à la dimension psychologique et quasiment, j'allais dire, phénoménologique de l'œuvre d'art. Et donc, cette phénoménologie, elle se développe au même moment avec Husserl, qui est totalement contemporain. Donc, il y a l'idée d'abord, en se revenant sur lui-même, sur sa propre expérience, de théoriser l'art à partir de ce qu'il ressent lui, soit en tant qu'auteur, soit en tant que lecteur. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant du point de vue de son parcours personnel. En même temps, ce qui est passionnant et fascinant, c'est qu'à la même époque, ou peut-être un peu plus tard en fait, hein, c'est-à-dire dans les années 1910-1920, se développe en Russie toute une école qu'on appellera ensuite formaliste, l'école formaliste russe, hein, avec Jacobson, avec Tinianov, Shklovsky, etc. et d'autres. Et donc, cette école formaliste russe qui va théoriser tout ça, en fait, elle est totalement parallèle à ce que fait de son côté Valéry, ce qu'il fera beaucoup plus dans les textes publics qui sont ceux des années 20, des années 30 et dans son cours de poétique.
Est-ce qu'on peut faire la critique au formalisme qui peut agir comme un antidote? C'est l'intérêt de penser avec lui, d'avoir raison avec lui, mais est-ce qu'on peut lui faire quand même l'objection d'un formalisme qui, en fait, s'enferme sur lui-même, produit aussi une littérature qui peut être désincarnée, qui peut être déconnectée des époques, qui va déconnecter les œuvres des auteurs, peut-être pour le bien, mais aussi pour le pire. Par exemple, on peut penser à des auteurs comme Céline, où là, on n'a pas envie de déconnecter l'œuvre de l'auteur parce qu'on a envie de savoir à quoi on a affaire.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que Valéry est mort en 1945, et lors de sa dernière année de cours, en 1945, il traite précisément cette question-là.
C'est-à-dire de l'œuvre et de l'auteur.
C'est quelque chose qu'il travaille depuis très très longtemps, mais c'est le moment où il y a l'épuration des auteurs collaborateurs. On est en janvier, février 1945, et il en parle très librement dans son cours. Il signe toutes les pétitions d'auteurs menées en particulier par François Mauriac, hein, pour demander la grâce de Robert Brasillach. Et Valéry a un discours à ce moment-là, mais totalement radical, c'est-à-dire qu'il dit en fait l'auteur, mais ça correspond à tout ce qu'il a toujours dit, et donc il est dans une cohérence absolue avec sa conception de la littérature. L'auteur n'est pas plus responsable de l'usage qu'on fait de ses textes qu'un propriétaire de vache n'est responsable des dégâts que fait sa vache si elle s'enfuit de l'enclos. En vérité, l'auteur met une lettre à la poste. Et après, chacun fait ce qu'il veut de sa lettre. Et ça correspond à l'un des très très grands principes de Valéry. C'est là, parce que ce formalisme, en fait, il est basé sur des principes. Et c'est l'idée que l'œuvre d'art est absolument distincte de son auteur, et que le sens de l'œuvre, en fait, il est construit par le lecteur, mais l'auteur n'en est absolument pas responsable. Et donc, de ce point de vue-là, il dit voilà, ben, on ne peut pas condamner un auteur pour ce qu'il a écrit. Donc c'est à la fois un extraordinaire message de liberté, c'est de liberté d'expression. En fait, on peut tout dire. Et c'est le lecteur qui est responsabilisé. C'est le lecteur qui est responsable de l'usage qu'il fait des œuvres. Alors moi, je ne pas être d'accord. Moi, je pense qu'il ne voit pas, me semble-t-il, à ce moment-là, en 45. D'abord, c'est que on condamne Brasillach non pas à cause de ses œuvres littéraires, mais à cause de ses écrits politique, dans les journaux, de ce qu'il a dit à la radio. Et c'était pas d'un point de vue rhétorique, du point de vue du genre, c'était tout à fait différent. C'était des appels à la haine et à la violence. Et donc ça n'a rien à voir avec un poème ou un roman qui, effectivement, comme ceux de Céline, dans certains cas, peut avoir un sens plus ambigu. Donc il me semble que là,
Distinguer en tout cas les œuvres entre elles.
Valéry, moi, ce serait ma réponse à Valéry s'il était devant moi, il nivelle un peu trop le type d'œuvre et qu'il y a différents types de discours. Mais ce que j'apprécie donc, ce que je trouve intéressant quand même, c'est qu'il ose défendre ça en 1945. Et donc c'est une position extrêmement radicale de liberté totale d'expression. Et ma foi, c'est des choses qu'on peut entendre, qui sont intéressantes à entendre, même si la position est radicale, elle est extrême. Mais cette radicalité, elle est le propre des grands théoriciens. Les théoriciens sont toujours des gens très radicaux, et c'est le cas de Valéry.
Alors ça, c'est pour le premier principe du formalisme. William Marx, donc vous l'avez dit, l'œuvre est totalement impersonnelle, elle est distincte de son auteur, c'est une œuvre autonome. On va entendre un autre texte de Valéry, c'est un extrait de l'enseignement de la poétique au Collège de France, c'était en 1937, on imagine son cours d'introduction, en fait, à son enseignement de la poétique.
Nous savons peu de choses d'Homère. La beauté marine de l'Odyssée n'en souffre pas. Et de Shakespeare, pas même si son nom est bien celui qu'il faut mettre sur le roi Lear. Une histoire approfondie de la littérature devrait donc être comprise non tant comme une histoire des auteurs et des accidents de leur carrière ou de celle de leurs ouvrages, que comme une histoire de l'esprit en tant qu'il produit ou consomme de la littérature. Et cette histoire pourrait même se faire sans que le nom d'un écrivain y fût prononcé. On peut étudier la forme poétique du livre de Job, ou de celle du Cantique des Cantiques, sans la moindre intervention de la biographie de leurs auteurs, qui sont tout à fait inconnus. Mais une histoire de ce type suppose ou exige, à titre de préambule ou de préparation, une étude qui eut pour objet de former une idée aussi exacte que possible des conditions d'existence et de développement de la littérature. Une analyse des modes d'action de cet art, de ses moyens et de la diversité de ses formes. Mais la littérature, à cause de sa facilité apparente de production, puisqu'elle a pour substance et pour instrument le langage de tous, et qu'elle ne combine que des idées non spécialement élaborées, semble pouvoir se passer pour être pratiquée et goûtée de toute préparation particulière. On ne conteste pas que cette préparation puisse paraître négligeable. C'est l'opinion commune selon laquelle une plume et un cahier de papier, en y ajoutant quelques dons naturels, font un écrivain.
La phrase importante de cet extrait, William Marx, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul Valéry, puisque c'est en italique dans le texte, c'est qu'il faut traiter l'histoire de la littérature comme une histoire de l'esprit en tant qu'il produit ou consomme de la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est le deuxième principe du formalisme tel qu'il est énoncé par Valéry. Le premier principe, on l'a vu, c'est le principe de l'impersonnalité. Donc, l'œuvre est distincte de son auteur. Le lecteur est absolument libre de comprendre les textes comme il l'entend. Juste deux citations pour compléter,
oui.
Parce que ce sont des citations qui sont bien connues et qui permettront de comprendre. Valéry dit par exemple « Mes vers ont le sens qu'on leur prête. Celui que je leur donne ne s'ajuste qu'à moi et n'est opposable à personne. » Donc lui-même, en tant qu'auteur, n'a pas de responsabilité, ne peut pas dire au lecteur ce qu'il doit comprendre. Ou encore, une autre deuxième citation, « Il n'y a pas de vrai sens d'un texte, pas d'autorité de l'auteur. Quoi qu'il ait voulu dire, il a écrit ce qu'il a écrit. Une fois publié, un texte est comme un appareil dont chacun se peut servir à sa guise et selon ses moyens. Il n'est pas sûr que le constructeur en use mieux qu'un autre. » Donc ça, c'est le premier principe. Le lecteur est absolument libre de faire ce qu'il veut avec le texte. Alors le texte ne permet pas tout, mais enfin, voilà. L'œuvre d'art est distincte de l'auteur. Le deuxième principe, c'est celui qu'on vient d'entendre donc dans la lecture. Donc là, on est dans le programme du cours de poétique donné par Valéry donc en 1937. C'est ce que j'appellerais l'autonomie de la littérature, ou plus précisément l'autorégulation de la littérature. À savoir que la littérature est conçue comme un système au fonctionnement autonome. Je disais tout à l'heure, la critique littéraire dans laquelle intervient Valéry, enfin à l'époque, à l'université, c'est une critique très biographique. Et là, Valéry, c'est incroyable, on pense qu'il a été élu au Collège de France sur un programme de ce genre, il veut faire une histoire de la littérature. Une histoire de l'esprit, en tant qu'il produit ou consomme de la littérature, sans même que le nom d'un écrivain y fût prononcé. Donc on peut faire une histoire de la littérature, ou plutôt la vraie histoire de la littérature, c'est une histoire où le nom des écrivains, ou la personnalité des écrivains n'intervient pas.
C'est presque paradoxal de faire une semaine sur Paul Valéry, alors là.
Oui, on pourrait le dire, du moins. Là, nous parlons de ses idées, donc ça.
C'est vrai,
d'accord,
alors ça va.
Il serait d'accord avec cela. Mais le fait est que c'est une manière de concevoir, en fait, l'histoire de la littérature, non pas comme une histoire des auteurs, mais comme une histoire des œuvres et des formes. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un développement autonome, un peu comme d'un point de vue darwinien, c'est-à-dire une sorte d'évolution des œuvres. On peut étudier le darwinisme, on n'a pas besoin de l'évolution des espèces, on n'a pas besoin de connaître le nom et la biographie particulière des individus. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les espèces se développent. Bien, la littérature, elle aussi, se développe comme une sorte d'objet autonome, avec des lois formelles, en fait. Et c'est l'une des questions que pose, par exemple, Valéry. C'est une vraie question. Est-ce que vous savez qu'il existe deux formes dans la poésie, le vers régulier, l'alexandrin par exemple, voilà, des formes très fixes, et de l'autre, le vers libre, le poème totalement libre. Bon, imaginez que vous n'ayez aucune connaissance de l'histoire de la littérature. Pouvez-vous me placer ces deux formes dans l'histoire de la littérature ? Est-ce qu'il y a une logique formelle qui dirait que le vers régulier précède le vers libre, ou inversement, que le vers libre précède le vers régulier ? Ben, je sais pas, peut-être qu'a priori, on dirait l'inverse, on dirait peut-être qu'il y a d'abord le vers libre, on crée les choses librement, et ensuite arrive le vers régulier avec toutes ses règles, ses contraintes, parce qu'on découvre peu à peu le fonctionnement même du rythme, la puissance de certaines des propriétés formelles, du son, etc.
On voit ce qui touche un auditeur ou un lecteur.
Et on essaie de trouver les bonnes manières de faire. Du reste, c'était l'idée d'Aristote, au bout du compte, que c'est dans la tragédie. La tragédie elle-même n'est pas quelque chose qui est à l'origine de la forme tragique elle-même, elle est au point d'arrivée au bout du compte de toute une histoire. Donc, cette idée que l'histoire des formes puisse se comprendre indépendamment de l'histoire des individus et que l'essence même de la littérature ne soit pas quelque chose qui soit donné par avance, mais peut-être quelque chose qui est construit au fur et à mesure de l'histoire de la littérature, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour Valéry, cette idée-là. Qu'au bout du compte, on est arrivé, ça correspond à cette autobiographie intellectuelle par laquelle nous avons commencé l'émission. Il se trouve qu'à la fin du 19e siècle, à un moment de cette floraison extraordinaire du symbolisme, Valéry a le sentiment que on est arrivé à la puissance d'expression la plus incroyable de la poésie en particulier. On est arrivé à l'exploitation au maximum de tous les effets du langage, en particulier avec celui qu'il considère comme son maître, Mallarmé. On est arrivé à un sommet. Et au bout du compte, on est arrivé à l'essence de la poésie qui est forme. Et cette essence-là, elle était devant lui et depuis, entre les deux, avant c'était moins bien et après ce sera aussi...
C'est la chute, c'est le déclin.
Chute, en fait, il y a un moment où la poésie touche à son essence, c'est le moment mallarméen, on pourrait dire, et dans lequel s'inscrit Valéry, et puis avant et après, voilà, ça sera moins bien. Mais donc, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on peut... L'histoire de la littérature, ce n'est pas une histoire ni de décadence, ni de... autre chose. C'est une histoire qui est purement formelle, en fait. Il y a des formes qui arrivent, d'autres qui reviennent, et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi une forme en précède une autre.
Et c'est intéressant aussi de se poser la question de pourquoi telle forme fonctionne à tel moment ou pas, parce qu'il y a production... Mais il y a aussi consommer de la littérature dans cette phrase. Donc il y a aussi le lecteur qui est en jeu. Donc pourquoi à tel moment on va consommer par exemple du nouveau roman ?
Alors tout à fait. Ce qui est intéressant de voir, ce sont ces thèmes, effectivement, vous l'avez dit, de production, de consommation que Valéry emprunte directement à Karl Marx. Il se vantait d'avoir.
Ça fait référence d'ailleurs à l'archive qu'on a entendu au tout début, avec quand il parle de capital ou d'économie.
Tout à fait. Il emploie beaucoup ces métaphores, qui sont plus que des métaphores en fait. Ce sont des modèles qui lui servent à penser la littérature. Il parle de l'étalon or, on peut penser. C'est aussi la question de la valeur travail, elle lui compte beaucoup pour lui. Mais il veut envisager les œuvres de l'esprit comme étant une production comme une autre, au même niveau qu'autre chose. Mais, et une consommation aussi comme...
Mais ça veut dire qu'on consomme ce qui est efficace aussi.
Tout à fait. Et l'efficacité, c'est justement, on verra, c'est le troisième principe du formalisme, c'est la littérarité. C'est-à-dire qu'il faut que l'auteur trouve la forme la plus efficace et ce sera la forme la plus littéraire. Mais juste pour encore revenir, oui. Avant de revenir sur la littérarité, l'idée de production, de consommation, c'est aussi une manière pour lui de démystifier totalement tout le discours sur la littérature. C'est-à-dire de sortir de toutes les grandes idées lyriques, romantiques, l'inspiration, des choses très vagues et très floues. Et lui, il veut au contraire arriver à une conception, économique, matérialiste, matérielle de la littérature. Alors, ce qui l'intéresse beaucoup plus que l'histoire des auteurs, c'est quand même l'histoire des conditions sociales dans lesquelles se fait la littérature. Il a bien conscience, il le dit dans le cours de poétique, que la littérature n'est pas possible à tout moment. Il faut des conditions économiques particulières. Il faut que le créateur, que l'écrivain en particulier, il ait des moyens de subsistance.
Et il savait de quoi il parlait pour le coup, Valéry.
Tout à fait, parce que lui-même...
On en a parlé dans la première émission.
Tout à fait. Ouais, ouais. Lui-même avait besoin d'argent pour pouvoir créer.
Et donc ce troisième principe, la littéralité.
Alors voilà, le troisième principe, c'est l'idée qu'en fait, il y a des... Alors ce ne sont pas des règles qui sont préétablies, mais il faut trouver les lois, en bout du compte. Les lois qui président à la plus grande, plus ou moins grande efficacité de l'œuvre littéraire. Donc il y a une spécificité du texte littéraire que doit trouver le créateur. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant littérarité, c'est le terme qui a été inventé par Roman Jakobson, Literaturnost en russe, au début des années 20, mais c'est l'idée qu'au bout du compte, le texte littéraire, et poétique en particulier, qui pour Valéry est un peu l'épitomé, le résumé, la quintessence même de ce qu'est la littérature, il obéit à des lois particulières. Et ces lois-là, il les exprime très très bien dans différentes conférences, en 1937, Poésie et pensée abstraite. C'est l'idée en particulier qu'il doit y avoir une sorte d'équilibre entre le son et le sens. C'est-à-dire une sorte de balancier. C'est-à-dire que quand nous lisons un poème, effectivement, les mots nous développent en nous un sens particulier, il y a un référent, etc. Mais il y a une telle puissance formelle, sensible, des sonorités, des rythmes, que nous sommes renvoyés de ce sens à ce qu'il a produit ce sens, c'est-à-dire la forme même. Et donc, en fait, nous sommes pris dans une sorte de balancier un peu hypnotique, et c'est vraiment l'image du balancier, elle est utilisée par Valéry lui-même, et qui explique cet état poétique dans lequel nous sommes plongés. Valéry dit par exemple, c'est toujours dans cette conférence Poésie et pensée abstraite, en vérité, Un poème est une sorte de machine à produire l'état poétique au moyen des mots. C'est une machine. Et tout à l'heure, on avait entendu qu'il parlait d'appareil. Mmh. Et donc, c'était le poète est lui-même un ingénieur. Et un ingénieur ne peut pas construire une locomotive ou un pont en faisant fi des lois de la physique. Et donc, l'auteur, le poète, doit se rendre compte de ce que sont les lois même du langage pour pouvoir créer. Et ça correspond à une autre formule, parce que là, on essaie d'accumuler les grandes formules, les grandes maximes critiques de Valéry. Mais c'est une formule, peut-être la formule en fait la plus célèbre de Valéry et qu'il y a dans le cours de poétique, la littérature est et ne peut être autre chose qu'une sorte d'extension et d'application de certaines propriétés du langage. C'est-à-dire que la littérature n'est en rien l'expression du moi d'un auteur, mais en fait la littérature elle sort du langage lui-même. Et elle ne peut se développer qu'à partir des lois propres du langage. Et l'auteur, le poète, c'est celui qui sait appliquer ces lois.
C'est celui qui les connaît comme un savant, par exemple. Tout à fait. Mais alors c'est vrai qu'il démystifie, mais il y a quelque chose qui fait presque pas rêver, j'ose le dire, William Marx, c'est que c'est très, très terre à terre. Et puis cette idée de production et de consommation, et d'efficacité aussi, il faut éviter de tomber dans une interprétation presque commerciale des œuvres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonctionne à tel moment? Qu'est-ce qui plaît au lecteur? Quelle forme est à la mode en ce moment? On pourrait tomber aussi dans ce versant-là avec le formalisme.
Alors, c'est pas du tout l'idée de Valéry. L'idée de Valéry, au bout du compte, c'est que l'œuvre correspond à un développement personnel, si je pense au terme moderne, mais pas du lecteur, mais de l'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, l'auteur doit lui-même se surpasser dans l'œuvre. Et donc, il n'a pas du tout l'idée, l'auteur ne doit pas penser, alors, c'est toutes ces réflexions que vous dites, il y a chez Valéry, lui, l'auteur, pour lui, ne doit pas penser à son public. Ce qu'il préfère, lui, en tant que poète, c'est avoir un seul lecteur qui le comprenne, qui comprenne bien son poème, plutôt que 10 000 ou 100 000. En fait, c'est ça.
Donc, il y a quand même une importance de l'auteur et de ce qu'il a envie de dire malgré tout.
L'idée, non pas ce qu'il a envie de dire, mais c'est l'idée d'être l'artisan parfait. C'est d'arriver à une perfection de l'œuvre, d'y travailler autant qu'on veut, autant qu'on peut sur l'œuvre. Et de toute façon, l'auteur n'a même pas besoin de public, en vérité. Il n'a besoin.
D'ailleurs, lui-même, Paul Valéry, a peu publié. À un moment donné, il n'a même pas du tout publié.
Il a très peu publié, d'abord parce qu'il n'avait pas le temps de publier, il devait donner des conférences pour gagner sa vie. Mais surtout parce qu'en fait, il s'en moquait un peu. Ce qu'il voulait, lui, en tant que poète, c'est travailler le plus possible les œuvres. Et il dit même, les œuvres ont été données au public simplement par des circonstances un peu indépendantes de sa volonté. Mais toute œuvre pour lui est un work in progress. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut jamais s'arrêter. Le travail de l'esprit, qui est un travail, en fait, d'amélioration de soi, est un travail qui ne doit jamais s'arrêter. Et le public est un peu un accident dans cette histoire.
Merci, William Marx. On s'arrête déjà à ce point-là de notre conversation, mais on se retrouve demain pour parler de la poésie de Paul Valéry, celle qu'il a écrite, La Jeune Parc, Le Cimetière Marin. De vous d'ici là, on peut lire, on n'aura pas le temps, mais quand même, je l'indique, les deux volumes des cours de poétique de Paul Valéry aux éditions Gallimard, aux éditions du Collège de France, où votre direction est celle de Mathilde Manara, Valéry au Collège de France, et Vivre dans la Bibliothèque du Monde également aux éditions du Collège de France.
Merci.
Je rappelle que toutes les œuvres de Paul Valéry sont disponibles aux éditions Gallimard. Un grand merci à Nicolas Berger pour la réalisation et à Grégory Wallon pour la prise de son. Rendez-vous demain pour la suite de cette série Avoir raison avec Paul Valéry et d'ici là sur le site et sur l'application Radio France.